qui ouvre la route pour entendre Dieu nous parler. Les chants ont cette vertu de nous sensibiliser à une autre voix, une voix de la nature, une voix de l'amour, une voix de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien ? Micro-cravate a fait un petit peu faillite, alors je retrouve mon micro, mais si vous entendez, je serai le plus heureux des hommes. Je voudrais que nous ayons un moment de prière ensemble, parce que la prière est vraiment la clé qui ouvre le royaume d'en haut, notre cœur en bas. La prière a une efficacité extraordinaire, pas parce que c'est nous qui prions, mais c'est parce que Dieu nous a dit « Invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai ». Nous allons ensemble nous lever à notre place et nous allons prier Dieu. Nous prions parce que tu nous as fait la promesse de nous entendre. Et quand même nos prières ne seraient que gémissements, que larmes sur notre visage, cachées de tous les regards, toi, tu connais le poids et l'importance des choses, l'importance des soupirs, des gémissements et des larmes. Et tu nous entends. Toi qui as fait l'oreille, tu nous entends. Tu entends l'appel que nous faisons monter vers toi aujourd'hui. Donne à ton Église, à chacun de nous, une liberté, un apaisement, un pardon, une libération. Accorde-nous ta bénédiction, tes bienfaits en cette journée, au nom de Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis. Et pendant quelques secondes, à méditer, à réfléchir. Parce qu'on est dans une course extraordinaire. On ne prend plus le temps de penser à soi-même. Pourtant, des gens pensent à eux parce qu'ils pensent à manger, se divertir, ils pensent à sortir, à courir, mais ils oublient le plus important, notre esprit. Le plus important de la vie humaine, ce n'est pas la coquille que l'on voit, le corps, les yeux, les mains. Le plus important, c'est l'esprit de l'homme. Et c'est là que se passent les drames, les souffrances, les solitudes, les inquiétudes. On va réfléchir à soi-même. Je voudrais ouvrir la Bible avec vous. Dans l'Évangile selon Matthieu, quatre évangiles pour raconter la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous sont beaux, tous sont vrais, tous se complètent. Matthieu chapitre 5, verset 25. Pour parler en ce jour de la vie si brève, nous avons vu l'actualité cette semaine et nous avons l'impression que la vie ne tient qu'un petit fil. Un petit quelque chose peut faire tout changer. Tout déraillé, mais peut-être que nous ici, on va dire un petit quelque chose pourrait faire tout changer dans le bien. Eh bien, oui, la vie est brève. Voici ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, ça va de plus en plus mal, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran, c'est-à-dire le dernier sou. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait 4 évangiles. On va prendre le dernier évangile, l'évangile de Jean, au chapitre 3, pour donner la suite de ce verset qui pourtant va nous intéresser tous, autant que nous sommes. Eh bien, ce sera la conclusion. Jean, chapitre 3, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'était les serpents qui mordaient les gens, parce que les gens avaient murmuré, n'étaient pas contents. Et puis dans la vie, vous savez, on récolte toujours un peu ce qu'on sème. Si on sème de l'amitié, on va récolter des bonnes choses. Si on sème des amertumes, on peut récolter aussi beaucoup de solitude. Donc il y avait eu une difficulté au temps d'Israël, autrefois, et encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et voilà ce que dit la Bible, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous êtes d'accord avec cela? Vous dites Amen. Amen. Mais on revient à notre premier petit texte. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. C'est pour vous, ça. Peut-être que vous me direz, mais monsieur, je n'ai pas d'adversaire. J'aime tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas de problème avec personne. Mais il y a quelqu'un avec lequel vous pouvez être en désaccord sans vous en rendre compte. C'est Dieu. Et Dieu, c'est une personne. On dit « j'aime tout le monde, je n'ai d'ennui avec personne » et pourtant on oublie Dieu. Si nous sommes en désaccord avec la loi de Dieu, les principes de vie de Dieu, nous sommes en désaccord avec Dieu lui-même. Si nous ne répondons pas à Dieu quand il nous appelle, nous sommes en désaccord avec Dieu. Et Dieu, on ne peut pas tricher avec lui. On ne peut pas se cacher de lui. Il voit tout, il retient tout, il n'oublie rien. Par conséquent, je ne peux pas dire « je m'arrangerai ». Nous verrons bien. Il faut que nous sachions que nous pouvons avoir comme adversaire, Dieu. Non pas que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu n'aime pas la tricherie, le mal qui est au fond de nos cœurs. Il n'aime pas ce que nous faisons de mal à notre prochain, à notre mari, à notre femme. Accorde-toi avec ton adversaire. Nous dirons que cet adversaire avec lequel il faut s'entendre, bien qu'il ne soit jamais pour nous un adversaire, c'est Dieu. Il y a des gens qui blaguent avec Dieu. Ils mettent Dieu en chanson, en moquerie. Ils semblent ne pas avoir peur de Dieu. Ils ont peur du gendarme. Hier, sur l'autoroute, on m'a fait des appels de phare. Attention, attention, il y a un radar. Alors les gens freinent, on a peur. Et avec Dieu, beaucoup de gens n'ont pas peur du tout, comme si c'était rien, comme s'il ne se passerait rien. Accorde-toi avec Dieu pendant que tu es en chemin. Parce que Dieu voit ta vie. et ce qui est mal dans ta vie te trouble toute la vie. Le serpent qui est en toi te meurt chaque jour et t'empêche d'être heureuse, heureux. Il faut que tu ouvres tes valises. Oh, vous vous rappelez autrefois, quand on allait en Allemagne, en Espagne, en Belgique, aujourd'hui on roule partout, c'est facile. À l'époque, il y avait des frontières avec des douaniers. Et ils nous disaient toujours, quand on arrivait à la frontière, vous vous rappelez certainement, n'avez-vous rien à déclarer ? Alors, beaucoup de gens disaient absolument rien. Et le douanier nous disait, ouvrez votre coffre, ouvrez vos valises. Et devant le royaume de Dieu, je pense que Dieu nous dit la même chose. N'avez-vous rien à déclarer ? Ouvrez le passé de vos vies. Ouvrez vos tiroirs. Ouvrez vos doubles fonds. Ouvrez vos pensées. Et devant Dieu, tout est à nu et à découvert. Nous n'avons pas fait le bien qu'il nous fallait faire. Nous avons fait le mal qu'il ne fallait pas faire. Nous rendrons compte de notre vie, mais aujourd'hui, avant ce jour-là, il faut savoir quel serpent, quel venin, quel mal se cache tout au fond de nous pour que nous retrouvions la paix, la joie dans la vie. Belshazzar, vous ne le connaissez pas, peut-être pas bien. C'est le dernier roi de Babylone en Irak. Et ce roi, il avait une sécurité, il avait un aplomb, il avait un toupet extraordinaire derrière les murs épais de son château. Il se moquait des Juifs déportés, il se moquait de Dieu, il se moquait de Jérusalem. Et puis il buvait à la santé de Dieu en qui il ne croyait pas. Et un soir, dans son palais tout fermé, tout blindé, le Seigneur a écrit sur le mur, sur la chaux du mur, compter, peser, diviser. Ça veut dire, Belshazzar, le temps est venu où tu vas être déballé, tu vas montrer ce que tu as été, tu vas être fouillé, tu vas être jugé, et ton royaume que tu as bâti sur le sang, sur la colère, sur la haine, sur la violence, ton royaume sera détruit. Il y aura un verdict sur notre vie. Nous le sentons bien. Dieu n'est pas contre nous, mais contre la folie de nos pensées, contre l'insouciance de notre cœur, contre l'orgueil de notre vie. Accorde-toi avec ton adversaire. Accorde-toi avec Dieu. Sois un même cœur avec Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, s'accorder? Oui, c'est être un même cœur. Les musiciens accordent leurs instruments. Ils règlent leurs instruments. Et si Dieu nous dit « accorde-toi », c'est que nous sonnons faux. Quelque chose dans notre vie sonne faux. Nous réglons notre vie sur l'opinion des autres. Et l'opinion des autres sonne faux, et tout le monde sonne faux. Nous sommes dans un monde qui sonne faux, et on n'a pas l'impression que nous sonnons faux, et que nous avons besoin de nous accorder avec la véritable note de la vie. Dieu a une harpe à 10 cordes. Vous connaissez les 10 cordes de la harpe, les 10 commandements. Et nous faisons beaucoup d'efforts pour nous accorder aux commandements de Dieu. Et nous n'y arrivons pas. On y arrive un peu, et puis on perd vite pied. Dieu veut nous dire, donne-moi ta vie. Fais-moi confiance, et je vais accorder ta vie à ta place. Je vais jouer à ta place. Je vais vivre en toi Nous avons parlé ce matin sur Saul de Tarse, qui était un violent, un homme qui a persécuté la première Église, et Dieu un jour lui a dit « Remets-moi ta vie ». Et le Seigneur a accordé la vie de l'apôtre Paul, c'est lui, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous a laissé cette parole magnifique comme un témoignage, quand il disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne sonne plus faux, je sonne juste, parce que le Christ a réglé ma vie, a accordé ma vie. » Véritable accordeur, c'est le Seigneur. Il a accordé à quelques secondes de la mort d'un brigand à côté de lui sur la croix. Il a accordé cet homme avec ce que Jésus aime et il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Accorde-toi rapidement, rapidement, promptement. Mets-toi d'accord. Laisse le Seigneur te donner la bonne note dans ton existence. Et avec cette note, tu vas pouvoir bien jouer ta vie. En musique. Accorde-toi promptement, rapidement. Mais pourquoi ? Vous êtes pressé, pasteur ? Oui, je suis pressé, vous aussi. Parce que mon cœur, à chaque fois qu'il bat dans ma poitrine, il me dit vite, 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 vite. L'horloge qui tourne dans ma salle à manger me dit à chaque fois vite, vite, vite. Accorde-toi vite. La jeunesse est passée pour beaucoup. L'enfance est déjà loin. Nous sommes déjà dans l'âge mûr ou nous sommes peut-être dans la vieillesse. Il faut aller vite parce que la Bible dit que nos années sont comme un son qui s'évanouit, comme un son de guitare. Doing, et ça passe. Nous fleurissons le matin et le soir nous nous fanons. Pauvres personnes âgées sont parties 5 minutes de leur maison et tout a été détruit. Nul ne sait le jour et l'heure. La vie est brève, rapide. Alors il faut s'accorder rapidement. Sur la terre, on n'a rien de permanent. On peut s'accrocher à rien. Les apôtres du premier siècle prêchaient ainsi : nous n'avons pas sur la terre une maison permanente. Que ta maison soit un bidonville, que ta maison soit un palais, rien n'est permanent. Nous sommes en escale, nous sommes en attente d'un départ. Nous attendons de rencontrer notre véritable existence qui sera sans fin. Accorde-toi promptement, rapidement, avec Dieu, qui est un adversaire de tes défauts, mais pas de ta vie, puisqu'il demande que tu t'accordes avec lui. Accorde-toi, nous l'avons lu, promptement pendant que tu es en chemin. On n'est pas toujours en chemin. La course ne dure pas toujours. Le marathon ce matin qui nous a un peu gênés, et il est fini. Les coureurs, je les ai vus, ils sont arrêtés. Un match ne dure pas toujours. Le match du rugby va s'arrêter, le match de football aussi. La vie ne dure pas toujours. La jeunesse et ses folies, la vieillesse et ses craintes ne durent pas toujours. Je n'aime pas parler de cela tellement, mais je me souviens dans ma jeunesse, je pense que c'était dans les années 1972, où 150 jeunes étaient réunis dans un petit village des Alpes qui s'appelle Saint-Laurent-du-Pont. Les plus anciens peut-être vont s'en rappeler. Et puis là, ils ont passé une nuit. de flirt, de boisson, d'alcool, de drogue, d'amusement, de rire, dans cet immense bâtiment qui était recouvert de motifs plastiques. Bon, je ne vais pas trop en dire, vous savez la suite peut-être. Un feu a pris dans la salle de danse. Pas un jeune, ou presque pas, a pu s'échapper. 150. C'est la vie de chaque jour. Accorde-toi pendant que tu es en chemin, pendant que tu peux dire aujourd'hui. Un jour, nous ne pourrons plus. La Bible dit « Adam vécut 930 ans, puis il mourut. » À 930 ans, moi je me serais dit, j'aurais dit à ma femme, j'ai 930 ans, j'en ai encore au moins pour 3000 ans, c'est pas possible. J'ai pas mal aux dents, j'ai pas mal au dos, j'en ai encore pour un bon moment. 930 ans, puis il mourut. Mathusalem, d'ailleurs c'est devenu un dicton aujourd'hui, on dit vieux comme Mathusalem. 969, qui dit mieux? Personne, c'est le record. Et la Bible dit, puis il mourut. Nous ne sommes pas faits pour la mort, nous sommes faits pour Dieu. Mais nous sommes faits pour un royaume qui n'est pas d'ici-bas. Et nous nous y préparons. Il y a sur la terre aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains. 7 milliards. C'est énorme, immense. Mais avez-vous pensé que dans, je ne serai plus là, mais enfin, dans 80 ans, tous les êtres humains qui sont sur la terre aujourd'hui, pratiquement, auront disparu. Accorde-toi promptement pendant que tu es en chemin. Si l'Église se tait sur la rencontre avec Dieu, si l'Église ne prêche pas aux jeunes, aux enfants, aux vieillards, aux malades, si l'Église ne dit pas « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », nous aurons un sentiment que l'éternité, bof, ça n'a pas d'importance, que c'est pas grave, qu'il n'y a rien de grave, tout s'arrangera. Il y a un dicton anglais qui dit, il y a deux choses qui sont certaines, on ne peut pas échapper, les impôts et la mort. Deux choses certaines, soit un dicton écossais sûrement ça. Les impôts et la mort. Mais moi, je vous dis, un homme qui est prêt à mourir, pas maintenant, mais qui est dans son cœur accordé avec le vrai sens de la vie, c'est un homme qui est prêt à vivre. Un homme qui a la paix de Dieu est prêt à vivre, à affronter tempêtes, découragements, difficultés. Vous n'avez jamais entendu cette expression « je tue le temps ». C'est affreux comme expression. Des gens m'ont dit « qu'est-ce que vous faites ? Moi je tue le temps, je vais dans des clubs, je sors, je me distrais, je tue le temps. » On tue le temps, ça va loin. On tue la vie. On passe son temps à rien faire. On passe son temps à des petites babioles, alors que ce temps-là, il est fait pour nous préparer à aimer, à espérer, à croire, à vivre. Vous ne trouvez pas ça aberrant de tuer son temps, de passer le temps. Accorde-toi en chemin, de peur qu'on ne te livre au juge. Oui, mes amis, peut-être qu'on ne le dit plus beaucoup aujourd'hui dans les églises, mais je crois qu'il faut le dire parce que ça fait partie du bien vivre. Bien vivre, c'est savoir la vérité. Docteur, dites-moi la vérité. Monsieur, docteur, je veux savoir ce que j'ai. La vérité. Eh bien, la vérité, c'est qu'il y aura un verdict sur nos paroles, nos sentiments, nos pensées, nos actes. On nous tranquillise la conscience. Nous sommes forts en tranquillisant, attention. On nous tranquillise la conscience. Et comme disait notre philosophe Blaise Pascal, avec des divertissements, on nous tranquillise pour ne pas penser à après. Et la religion devient une caricature, tout juste bonne à faire des enterrements et des mariages. Il y aura un verdict, un jugement, une récompense. Il y aura dans le ciel une rencontre. On me dirait, mais Dieu, si Dieu est amour, il ne peut pas faire tout ça, il ne peut pas condamner personne. Est-ce que vous pensez, vous, si Hitler dansait avec Mère Teresa? Ça paraît incroyable. Au son des luttes et du tambour, vous ne trouveriez pas ça injuste que Hitler ait la même joie que Mère Teresa ou que l'apôtre Pierre ou que Marie? Vous ne trouveriez pas ça injuste, anormal? Nous rendrons compte chacun pour notre vie. Et la preuve que j'ai que nous rendrons compte, c'est que Jésus-Christ sur la croix a vécu un jugement. Il a été jugé. Il a été jugé à notre place. Sur la croix, il a été condamné. Il a vécu la condamnation du péché dans son corps, de notre péché. La claque qui devait nous revenir est tombée sur lui. Le châtiment qui devait nous revenir est tombé sur lui. Et la Bible dit que Jésus-Christ jugera le monde, ma vie, avec celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ. Accorde-toi avec Jésus-Christ. Parce que quand tu le verras, tu verras son regard de flamme devant lequel rien n'est caché. Tout est connu. Nous sommes à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous rendrons des comptes. Sa parole est pénétrante. Quand le Christ parle, quand on l'écoute, sa parole, elle pénètre au fond de notre âme. Elle nous révèle le mal, elle nous révèle le bien. Elle apporte la vie, elle apporte le bien. Sa parole pénètre là où personne ne peut rentrer, dans le secret de la pensée, des sentiments. Accorde-toi en chemin, pendant que tu as l'occasion, afin que ta vie sorte du marasme, afin que ta vie sorte de l'ombre de la mort, afin que ta vie puisse connaître les verts pâturages, afin que ta vie puisse s'élever dans une espérance pour cette terre, pour l'autre monde, une espérance de chaque jour en disant « Je sais en qui je crois ». Et la Bible dit, nous l'avons lu, il te mettra en prison, c'est une image que Jésus prend. Accorde-toi avec nos adversaires, sinon tu vas aller en prison et tu ne sortiras pas de là avant que tu aies tout payé. Vous paierez jusqu'au dernier sou. Ça va prendre longtemps. C'est impossible. Je ne pourrai pas régler avec mon argent. Il y a dans la Bible une histoire, un riche qui était mauvais, épouvantable, qui était indifférent, qui était ingrat, qui profitait de la vie et qui n'a rien donné à un pauvre. Et quand il a été jugé, quand il a été dans le séjour des morts, il n'a pas dit « Seigneur, je vais te payer ». Il était très riche. Il n'a pas dit « Je vais te payer, sors-moi de là ». Non. Impossible de se sortir de la condamnation, du jugement, du verdict. La Bible dit, l'homme ne pourra pas se sauver lui-même, se racheter lui-même, il ne pourra pas payer à Dieu sa rançon. le seul espoir, c'est de nous accorder avec Dieu. C'est de mettre nos mains dans ses mains et dire, Seigneur, j'ai mal conduit ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu me mettes dans le vrai chemin, dans ta vérité, dans ta vie. Le seul espoir, c'est de nous accorder, de faire la paix avec lui pour recevoir sa paix qui nous tiendra debout dans les tourmentes de l'existence, dans les dépressions de l'existence. Si tu veux fuir sa colère, cache-toi dans son amour. Approche-toi du calvaire et ne crains pas le grand jour où tu le verras. Si tu veux fuir sa colère, cache-toi dans son amour. Dieu n'est pas votre adversaire. Il ne supporte pas que vous jouiez avec les serpents, les crocodiles. L'adultère, le péché, le mensonge, l'hypocrisie, il ne supporte pas parce qu'il sait que c'est dangereux. Mais il vous aime. Et c'est lui qui, sur la croix, eh bien, il a payé. La dette a été payée. Vous ne pouviez pas la payer. Vous ne pouvez pas vous sortir vous-même, vous donner une autre vie. Il l'a payée avec l'infini de son amour, l'infini de sa personne, l'infini de ses souffrances. Il a payé. Dieu a payé. C'est pas un homme, c'est pas un ange. Dieu a payé. Il est descendu dans la prison de la mort quand il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais la prison de la mort, c'est aussi la prison de nos jalousies. La jalousie, c'est une prison. On dort avec, on mange avec, on se réveille avec. Il est descendu dans la prison de la haine. La haine peut nous endurcir le cœur, nous faire vivre d'une manière désordonnée, la prison de la peur. Il est descendu dans nos prisons pour briser les carcans. Il a payé. Si je suis libéré par Jésus-Christ, ce n'est pas pour garder certains carcans sur moi. Imaginez quelqu'un qui, un prisonnier, est libéré, puis sort de la prison avec les menottes. Aux pieds, aux mains, avec un carcan sur les épaules. Mais il est libéré. Il est libre, avec des menottes, aux pieds, aux mains, à la gorge. Jésus a dit, si le Fils de Dieu vous libère, vous serez réellement libre, définitivement, totalement. Au niveau de vos pensées qui sont parfois ballottées par des obscénités, par des tentations de suicide, par des découragements, vous serez libre jusque dans les profondeurs de votre esprit. Accorde-toi en chemin parce que le Seigneur a réglé ta vie. Il a réglé ta dette. Il a réglé le mal que tu as fait. Il va en effacer les conséquences. Il va en effacer les conséquences. Je pense, je vais conclure, le plus grave accident de la création, le plus grave accident depuis le début de la création du monde, ce n'est pas la météore qui a frappé la terre dans le lointain passé. Le plus grave accident de la création, ce sont les ténèbres qui sont rentrées dans le cœur des hommes. Parce que les ténèbres, c'est le mal. Et quand le mal entre, on fait plus de mal qu'une météore qui tombe sur la terre. On est capable de détruire des centaines de millions d'enfants et d'êtres humains. Ça, c'est le l'accident le plus grave. Les ténèbres sont venues et on ne les a pas refusées. Mais l'événement le plus beau, le plus gigantesque, l'événement le plus extraordinaire, c'est que Dieu, la grande lumière, la parole, est devenu un être humain afin de nous tendre la main aujourd'hui et de nous dire « Veux-tu être guéri ? Je t'aime d'un amour éternel. Arrête, arrête de prendre les pacotilles que le mal te donne, le malin te donne. Pacotilles d'envie, d'égoïsme pour réussir, pour dépasser l'autre. Arrête. Tout ça, il y aura une addition à payer à la fin. Il y aura, c'est comme au restaurant, on mange, puis après il y a l'addition. Il y aura l'addition à la fin. Arrête ces pacotilles de mensonges. Jésus te dit, il efface ton passé, efface ta dette. Il se réconcilie, il s'accorde avec toi et il accorde ta vie à la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite, agréable. Dieu ne veut pas que l'homme soit condamné, mais qu'il vive. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il ne l'a pas repris, il l'a donné. Il nous sera donné pour l'éternité. Toujours, toujours, toujours. Et celui qui croit en lui ne meurt pas. Là, parfois on meurt sur la terre, plusieurs fois, 100 fois parfois. On meurt de chagrin, on meurt d'épuisement, on meurt de tristesse, on meurt d'éloignement, de solitude. Jésus dit, il ne mourra pas. Mais il aura la vie. C'est beau la vie, hein. C'est plein de fleurs, c'est plein de pétillants. La vie éternelle qui dure toujours. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Merci Seigneur pour la parole de ce jour. Oui, nous voulons nous accorder avec toi. Notre vie sans toi, elle va de brisement en brisement. Avec toi, c'est la réparation, le relèvement. Tu restaures nos ruines, dit la Bible. Et parfois, tout au fond de nous, tout est en ruine. Mais Dieu est le grand bâtisseur. Il a bâti l'univers. Il nous bâtit notre vie. Je te prie de toucher le cœur et l'âme et l'esprit, la santé de tous ceux qui sont venus entendre l'Évangile dans cette église du Tabor aujourd'hui. Je te prie de leur tendre à nouveau la main, encore, toujours, et de les conduire dans le bonheur. Car tu as dit, bienheureux ceux qui dépendent de Dieu, ceux qui se confient en Dieu, ceux qui espèrent dans sa parole. Merci pour ta parole. Amen.